Bonjour tout le monde, bonjour Fabrice.
Bonjour à tous et bonjour à la sportive que vous êtes, Isabelle.
Oh bah écoutez, il va falloir lever quelques couches de vernis, effectivement. Aujourd'hui, nous allons parler, en effet, Fabrice, de sport, de l'exigence du haut niveau et de l'importance de croire en ses rêves à travers un parcours atypique, celui d'une grande championne qui, à 5 ans, à Casablanca, rêvait déjà d'anneaux olympiques et qui, aujourd'hui, après Rio et Tokyo, est en phase de prépa pour participer à ses 3e Jeux à Paris dans quelques mois.
Avec la judokate et conférencière, effectivement, Asma Nyang, qui est notre invitée exceptionnelle. On a de la chance dans Sapienza aujourd'hui. 5 fois championne d'Afrique de judo, c'est l'une des meilleures combattantes mondiales dans sa catégorie. Ce sont les moins de 70 kilos, mais au-delà des tatamis, et c'est très intéressant, sur lesquels elle est montée très tardivement, on va également l'apprendre. Elle a aussi été d'une des premières femmes sapeurs-pompiers de Paris. Nous reviendrons donc à ses côtés sur son parcours de vie et sportif si singulier. On parlera de ses défis, de ses projets, mais aussi de dépassement de soi, évidemment, de force mentale, et comme elle en est le parfait exemple, de l'importance de croire en ses rêves.
Et puis en seconde partie de ce magazine, nous resterons dans l'univers du sport, avec peut-être le plus cérébral de tous. Je veux parler des échecs. En quoi nous permettent-ils à tout âge et au-delà de l'échiquier d'optimiser nos prises de décision, à résoudre des problèmes ou développer notre créativité? Notre invité sera Aka Vilsar, président de la Ligue Corse d'échecs, en direct depuis les championnats de France qui se tiennent en ce moment à Agen.
Sapienza, l'invité.
Asma Nyang, bonjour et bienvenue sur Avreguansamor.
Bonjour, bonjour à tous.
Bonjour,
merci pour l'invitation.
Bonjour Asma, bienvenue.
Asma, une première question peut-être. Comment et depuis quand se forge-t-on l'âme d'une championne?
Ah, alors moi c'était un rêve de petite fille. Voilà, quand j'étais petite, je dessinais des anneaux. Le rêve olympique, je dis toujours, il était en moi, j'incarnais tout ça en fait. Il était en moi depuis toujours, ce petit feu sacré que j'ai toujours gardé toute ma vie.
Mais parce que vous étiez déjà sportive dès votre plus jeune âge?
Ou d'une famille de sportifs, peut-être?
Ah oui, c'est vrai que je pratiquais pas dans un club quand j'étais petite, mais c'est vrai que, j'avais l'âme de la performance. Donc, moi, il fallait, quand je faisais une course avec mes frères ou sœurs, il fallait que je gagne, que ça soit les cartes. Enfin, peu importe le jeu, il fallait toujours que je sois la gagnante. Donc, j'ai toujours eu ça en moi.
Ce qui est intéressant, on va le comprendre à vos côtés, Asma, et puis nos auditeurs, je sais, vont être touchés par un parcours exceptionnel, on l'a dit. Casablanca, à 5 ans, une petite fille sportive, combattante, gagnante, qui rêve d'anneaux olympiques, qui arrive aux alentours de 12 ans en France. Ne parlons pas le français, c'est important parce que derrière, il va y avoir des études toujours plus compliquées, quand ce n'est pas la langue première qui est celle avec laquelle on doit écrire, parler ou composer. Et donc, vous n'allez pas forcément avoir les études qui vous plaisent le plus. Hein. Le sport-études va vous être fermé, vous allez rentrer plutôt du côté, on va vous orienter du côté de la cuisine. Donc, arriver à 12 ans en France, c'est compliqué, c'est un changement important pour vous déjà?
Oui, c'était plutôt 11 ans. En réalité, c'est vrai que la langue de Molière, c'est une langue qui est très très difficile, contrairement à beaucoup de langues. Donc c'est vrai que je parlais arabe et un peu plus l'anglais, mais le français c'était une langue très très lointaine. Donc lorsque je suis arrivée, donc il fallait que je rencontre ma mère parce que je ne connaissais pas ma mère, comme elle avait laissé à 1 an. Donc il fallait que je rencontre déjà ma mère, le pays. La langue, donc il y avait beaucoup de découvertes pour moi lorsque je suis arrivée ici. Donc j'étais dans une école francophone. Et puis par la suite, apparemment, il me fallait juste 1 an parce qu'ils ont dit que j'ai progressé vite. Et puis tout de suite, ils m'ont mis dans un cursus normal. Sauf que je me suis retrouvée à pas vraiment comprendre, à part les mathématiques, le PS, où j'excellais, tout le reste. Et c'était un peu compliqué, pas parce que j'étais mauvaise, tout simplement parce que j'avais la barrière de la langue qui m'empêchait de tout comprendre, tous les autres cours. Donc forcément, on m'a mis en échec scolaire très très tôt, sans vraiment comprendre ma problématique.
Et du coup, comment vous réagissez à cette orientation qui vous est suggérée, mais qui ne vous intéresse pas, a priori, Asma Nyang?
Alors, c'était vraiment très très difficile parce que sachant que je faisais de l'athlétisme à l'époque et du hand, et j'excellais, donc dès que je faisais un sport, j'excellais dedans, je pouvais exceller dans pas mal de sports. Et c'est vrai qu'il y a plein de copines à moi qui sont parties en sport-études parce qu'à l'époque, il fallait vraiment avoir une moyenne assez 15, 16 alentours pour être à l'aise en sport-études. Sauf que moi, j'étais loin de cette moyenne-là. Et je voyais mes copines partir en sport-études. Et puis moi, on m'a mis dans un cursus professionnel. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'avais fait le parallèle entre échec scolaire et professionnel. Donc, quand on dit échec scolaire et on met en professionnel, donc pour moi, c'était les gens qui ont un peu raté leur vie, qui vont en professionnel, alors que c'est pas du tout le cas. Et bon, voilà, c'est le regard de la petite fille, enfin la petite jeune, qui justement qu'on lui explique que si on est en échec scolaire, forcément on va partir en professionnel. Et c'est vrai que ma mère à l'époque, elle m'a dit en France on aime bien manger. Je suis certaine que si tu vas en professionnel en cuisine, tu en trouveras un métier et voilà, tu vas t'en sortir. Et c'est vrai, à l'époque, j'avais accepté de faire un CAP-BEP Bac Pro Cuisine. Et je me suis retrouvée dans les fourneaux pendant 4 ans. Loin, loin du rêve olympique.
Mais pour autant, vous allez revenir, on va le comprendre. On a déjà un petit peu spoilé la fin. Ou en tout cas, ce qui est aujourd'hui votre quotidien. Mais Asma, est-ce qu'aujourd'hui, justement, vous retournez dans les écoles? Et ça, c'est votre rôle parfois d'ambassadrice du sport ou de personne qui aimait rencontrer aussi cette jeunesse. Et vous leur parlez justement de cet échec qui n'en est pas un, d'aller vers des voies comme celle-ci?
Alors moi, il s'avère que vraiment, c'est devenu une de mes missions de vie. Enfin, moi, j'en ai plein des missions de vie, mais là, celle-là, elle est vraiment très, très prioritaire pour moi. Car vraiment, c'était quelque chose qui était très, très, très difficile de dire à un enfant qui avait un talent, de lui dire, tu ne l'as pas et tu vas ailleurs, et de ne pas croire en ses rêves et de son potentiel. Alors forcément, la confiance, elle descend. Et c'est vrai que j'ai envie de redonner ça à cette jeunesse, en fait, que, expliquer mon parcours, que malgré que des fois les choses sont différentes, on peut quand même garder ce rêve et croire en son potentiel pour le réussir ailleurs. Et puis voilà, et j'essaye aussi, de partager ça avec tous les éducateurs, avec tous les professionnels, pour plus comprendre les jeunes, parce que mon discours n'est pas justement que pour les enfants ou les jeunes. Ces ados, c'est aussi pour tous les accompagnants, en fait, qui a un système qui change un petit peu. Donc j'essaye en tout cas d'avoir un message aussi pour tout l'univers de l'éducation nationale, de voir comment penser l'école et comment penser une école un peu plus innovante, qui change un petit peu sur justement le potentiel. Qu'est-ce que le potentiel? Qu'est-ce que l'échec? Et qu'est-ce qu'on peut dire à un enfant pour un monde meilleur, tout simplement.
Et oui, et puis pour le coup, vous l'avez expérimenté dans votre chair, avec cette jeunesse où vous n'êtes pas allé là où vous pensiez que votre place était. Malgré tout, et ça pourra surprendre nos auditeurs, c'est à 20 ans, alors vous l'avez dit, vous avez fait du handball, vous devenez championne de France avec votre équipe à cette époque-là.
On est de l'athlétisme aussi.
De l'athlétisme un peu plus tôt.
Et on n'a pas parlé judo encore.
Et oui, et pour autant, on a expliqué que c'était vraiment le sport qui l'a amené vers l'Olympe. Qu'est-ce qui fait qu'un jour vous rentrez sur un tatami à 20 ans, ce qui est très tard pour une championne.
C'est vrai que c'est la synchronicité de la vie, hein. Je crois beaucoup au destin, c'est juste que je partais à chercher un petit jeune, parce que je le gardais pour aller justement qu'il fasse sa séance de judo, et puis je suis rentrée dans un dojo pour la première fois, et c'est vrai que c'est ce jour-là qui a transformé ma vie, en fait. C'est juste cette rencontre avec un entraîneur où j'ai essayé ce cours et mon premier prof, Yves Abdoun, qui me dit clairement que si je continuais ce sport, je pourrais aller loin. Et c'est vrai que moi, je cherchais un sport olympique, hein. Ça pouvait être le judo ou un autre sport, la lutte, je sais pas. Là, c'était le judo. Et ça tombe bien parce que le judo, c'est un sport je dis toujours, le judo, c'est un sport qui m'a construite. Et le judo, on peut pas faire du judo si on sait pas chuter, on sait pas tomber. Donc en fait, c'est le judo qui m'a appris la résilience, en fait, apprendre vraiment à tomber plusieurs fois et se relever. Et c'est un sport qui a un message très très puissant, qui a été un sport très puissant pour moi, pour me concrétiser. Et ce jour-là, en fait, j'ai vu des anneaux olympiques dans ses yeux. Et tous les jours, il me voyait, je finissais la cuisine. J'allais très, très... Parce que j'étais encore en cuisine. Donc, j'allais le soir très tard m'entraîner. Et c'était tous les jours, jusqu'à ma ceinture noire que j'ai eue au bout de 3 ans et demi. Très, très accélérée, parce qu'il m'a appris à être une combattante avant tout. Je vais t'apprendre, il m'a dit, à être une combattante pour que t'ailles plus vite. avec ce qui est arrivé. En fait.
Avec malgré tout un dojo qui sentait des pieds. Ça ne vous a pas pour autant empêché d'y retourner plusieurs fois. C'est l'anecdote, ça, pour dire que dans un premier temps, voilà, ce n'était pas spontanément quelque chose qui vous attirait.
C'est vrai.
Il y a d'autres valeurs dans le judo qui vous animent, autres que la résilience ?
Alors le judo, tout d'abord, avant de commencer, il faut apprendre le code moral. Et le code moral est juste extraordinaire. Hein. Il y a l'amitié, la maîtrise de soi, et les diverses. Et c'est un code, en fait, c'est une règle qu'on apprend. Ça va au-delà, c'est un sport asiatique, il vient du Japon, hein, le soleil levant. Et les Japonais, ça va au-delà du sport. On est judoka, mais on est judoka aussi dans la vie. On nous apprend à être des hommes et des femmes... voilà, avec des valeurs dans la vie, bien avant être fort sur le tapis. Ça passe en deuxième plan. Être judoka, c'est vraiment, voilà, c'est le guerrier pacifique. C'est avec des valeurs très, très profondes. Et ça me plaisait, en fait. Donc, ça m'a appris, en fait, tout simplement à faire ma résilience, à comprendre certaines choses mieux que même dans n'importe quelle bande d'université. Et ça, c'est juste magique, en fait. Et je pense que c'est grâce au judo que je suis la femme que je suis aujourd'hui.
Sabiens, l'émission de tous les savoirs sur RCFM.
Nous sommes aux côtés d'Asma Niang, judokate bien connue sur les tatamis dans le monde, qui participera peut-être à ces troisièmes Jeux Olympiques à Paris dans quelques mois. Pour le moment, vous êtes aux phases de présélection, Asma. Une femme dans l'univers du combat, dans le judo, mais également dans les pompiers de Paris. Et c'était relativement nouveau lorsque vous intégrez les pompiers de Paris, Asma Niang. Quelle est sa place et comment vous faites-vous finalement à ces milieux extrêmement masculins?
Ah oui, c'est vrai, je suis rentrée à peu près dans les premières femmes, parce que les femmes, elles rentraient en 2004, quelque chose comme ça. Moi, je suis rentrée fin 2005-2006. Et c'est vrai que j'étais toute seule dans mon contingent. Et puis à ma caserne, j'étais la première femme à être dans cette caserne-là du Vieux Colombier, à la 4e compagnie. Et c'est vrai que c'est un milieu patriarcal, c'est vrai, qui peut être des fois hostile. Mais il y a aussi j'ai eu des collègues hostiles comme des collègues extraordinaires. Et c'est vrai que le métier, c'est un métier qui est très, très, très difficile, où ils ne s'étaient pas vraiment habitués à avoir des femmes, et il fallait qu'ils s'habituent, ils s'adaptent à ça. Donc, je suis restée 10 ans de ma vie, en fait. À chaque fois, je dis, je suis rentrée en jeune fille. Alors là, c'était quelque chose de difficile, mais en même temps formateur, très, très formateur. Et c'est grâce aussi aux pompiers de Paris que je pense que je réalise mon rêve olympique.
Puis vous ne pouviez pas leur dire non quand vous rencontrez un des dégradés qui vous dit « Mais finalement, être pompier de Paris, si tu arrivais à faire les sélections, à rentrer parmi nous, c'est faire du sport et sauver des vies. » Et ça, faire du sport et sauver des vies, ça vous parlait tout de suite.
Oui, c'est la synchronicité où je faisais un footing et je rencontre un gradé qui m'a ouvert cette porte en me disant voilà, on fait rentrer des femmes. Et je lui dis, le métier consiste à quoi? Il m'a dit, voilà, nous, on fait du sport et sauver des vies. Alors, vraiment, moi, déjà, de petite fille, j'ai toujours rêvé aussi d'être un super-héros. Donc, j'ai un peu identifié les super-héros avec les athlètes de niveau. Mais je me suis dit, mais peut-être qu'aussi, je peux faire ça. Et c'est vrai que, voilà, moi, déjà, j'ai cette âme guérisseuse, cette âme où j'ai envie d'aider l'autre. J'ai ça en moi depuis toujours, et d'ailleurs, j'en fais mon métier aujourd'hui. Et donc, voilà, le soin, c'est quelque chose qui m'anime et que j'aime ça. J'aime être à ce service-là. Et c'est vrai que je me suis épanouie. Même il y a eu des choses très, très difficiles. Mais je sais que j'ai beaucoup appris et je me suis épanouie au sein de la brigade.
Alors justement, à vous entendre aujourd'hui, on sent la passion qui vous anime et la douceur dans vos propos. Mais néanmoins, le quotidien d'une sportive de haut niveau ou d'un pompier de Paris, c'est beaucoup d'exigences aussi. Ça représente quoi si vous deviez nous immerger avec vous dans ces milieux de haut niveau, oui, où finalement on est dans l'entraînement et dans la dureté de celui-ci au quotidien?
Ah oui, c'est vrai. Alors maintenant, des fois, quand on est à l'intérieur, on ne s'en rend pas compte pour les gens qui sont à l'extérieur. Mais c'est vrai que moi, ma vie, elle a été rythmée pendant des années à m'entraîner. Donc j'ai une copine qui, c'est très drôle, ma meilleure amie, qui me dit « Asma, j'ai l'impression que toute ta vie, t'es sous courbature. » C'est-à-dire que j'ai tout le temps des courbatures, tout le temps. Donc je trouvais cette phrase très, très drôle. Et c'est une réalité, c'est qu'on s'entraîne beaucoup. Donc moi, je suis à 15-20 heures d'entraînement. Et puis à l'époque, bah, avec les pompiers, je faisais des gardes de 72 heures. Bon, maintenant, je ne les fais plus du tout, mais je faisais des gardes 72 heures, 24 heures, 48 heures, on dort très peu. Mais après, on est tellement passionné. Alors, c'est vrai que moi, la chose qui me gardait dans ce rythme, c'est que j'avais le rêve tellement grand. En fait, je suis quelqu'un de très ambitieux. Et j'ai un peu cette étoile, on a toujours de petites filles qui rêvent, qui m'anime. J'ai toujours une petite fille qui est en moi, en fait, que je fais vivre, en fait, ce petit feu sacré. Petite fille, on peut appeler ça comme on veut. Que bah il y a non limite, quoi, juste vas-y. Et je suis, c'est vrai que toujours non limite, donc voilà, on me caractérise tout souvent à ce moment les non limites, mais en réalité c'est parce que je suis souvent à l'audace, voilà, c'est on y va. Puis faut pas dire que je tombe pas, hein, je suis tombée 1000 fois, donc mais c'est pas grave, je me relève assez vite et puis on repart, en fait. Et puis j'aime vivre mes aventures intenses
à travers plus de 70 pays aussi, hein. Ça veut dire que oui. Ça, vous êtes allé à la rencontre de l'autre, c'est pas du voyage. hein, vous ne le prenez pas comme ça. D'abord, c'était par le sport et puis par la rencontre humaine. On le comprend et on l'entend, qui vous a toujours animé, Asma. Cette universalité aussi que vous portez très, très naturellement en vous. Quand on arrive à Rio, après avoir dû faire un choix, quitter les pompiers de Paris pour notamment être sous la bannière du Maroc, la représentante du judo à Rio, et qu'on a enfin les anneaux au-dessus de ses yeux lorsqu'on est là-bas du côté des Jeux Olympiques. Qu'est-ce qu'on ressent quand on y a tellement pensé à ce moment-là?
Alors moi, je vais vous raconter une petite anecdote. Vous savez, on fait la tournée du stade. Ça va être différent à Paris 2024 parce qu'on va le faire sûrement dans la Seine. Mais normalement, les Jeux Olympiques, tous les pays vont autour du stade et puis voilà, ils font le tour. Et c'est vrai que moi, lorsque je suis rentrée, j'étais tellement en émotion, je me suis mis à pleurer, en fait, de me dire waouh. Et en fait, ce parcours, quoi, tout ça. Et finalement, des fois, c'est le chemin, et il faut faire attention des fois à être tellement focus sur l'objectif qu'on oublie le chemin, comme le sacré livre de Paulo Coelho dans L'Alchimiste. C'est le chemin, il est juste extraordinaire, et il faut être des fois focus sur voilà, nos exploits, les chemins pour y arriver, et des fois on les oublie. Et lorsqu'on n'arrive pas à la destination, ou lorsqu'on est dans la destination, on n'apprécie pas, ou on... Mais il n'y a que ça, mais en fait, en réalité, le chemin, c'est des fois, c'est ça aussi la médaille, parce que lorsqu'on a fait un exploit qui est juste extraordinaire pour arriver à un endroit... Et le chemin était juste fabuleux. Et c'est vrai que j'étais en émotion pour ça, parce que je me rappelle de ce chemin, en fait. Et d'arriver là, c'était une émotion qui était intense et que je garde. Et aujourd'hui, je me nourris de ça. C'est devenu un peu un rappel. Lorsque je m'égare un peu, je sais toujours mon ancrage, ce d'être là et de me dire, avec ce parcours, tu as réussi. Et c'est ce message que je donne souvent en conférence à des jeunes, de faire attention, être focus sur leur chemin.
Des exploits, des joies, des médailles, des réussites à Asma Niang, mais aussi parfois des chutes, vous l'avez dit, des échecs. Est-ce qu'il y a des injustices qui vous ont marqué ou des moments de doute? Et comment avez-vous fait pour les surmonter, surtout dans votre parcours, des anecdotes un petit peu marquantes de l'autre côté du chemin?
Oui, bien sûr. Bah, bien sûr qu'il y a des injustices. De toute façon, dans le sport, forcément, c'est des humains qui, par exemple, qui arbitrent. Des fois, bah, il reste des humains. Et donc, des fois, on s'en rend pas compte. Mais c'est statistique, c'est comme ça. Il peut y avoir des erreurs humaines. Donc, des fois, j'ai déjà eu des injustices sur le tapis que je comprenais pas, où j'étais beaucoup en colère. Mais ça fait partie du process, en fait, tout simplement. Et, être résilient. J'ai dû faire passer, des moments très, très difficiles, mais je me suis rendu compte qu'en réalité, ça faisait partie du parcours. En fait, tout ça fait partie de mon chemin, en fait. Et les échecs, j'arrive à comprendre que c'est des épreuves. Alors souvent, on n'aime pas des choses un peu on aime bien être dans le confort. Et des fois, on est dans l'inconfort, le fait d'avoir une injustice, de tomber. Et tout ça, c'est des épreuves. Et de sortir de cette zone de confort, c'est aussi des moments difficiles. Parce que l'être humain aime être dans son confort, que tout va bien. Mais c'est comme un peu le temps. Et des fois, il y a des orages, des fois, il pleut, des fois, c'est l'hiver. Il faut un peu accepter d'être un peu comme aussi la nature. La dame nature, elle nous montre ce chemin-là. Et l'être humain ne veut pas l'accepter. Donc, c'est vrai que moi, j'aime beaucoup la nature. Et des fois, j'aime bien avoir cette comparaison et ce lien, en fait, ce pont, en fait, entre nous et la nature, en fait. Et on est pareil. Des fois, dans l'arbre, il n'y a plus de feuilles. Nous, des fois, on est un peu desséchés, il n'y a plus rien. Mais je sais qu'il y a le beau temps. Alors, à chaque fois, je me rappelle, non, le soleil, il va venir bientôt. Donc, il faut être patient. Il faut être patient pour que ça arrive. Et puis, on apprend beaucoup de ce temps-là. On apprend quand on n'est pas dans la zone de confort. On apprend énormément.
Les fans de judo et de Jeux Olympiques se souviendront quand Isabelle vous questionnait sur la question notamment des échecs ou des injustices que vous avez subies à Tokyo, au dernier jeu, Asma, notamment pour une question d'arbitrage, et même à la caméra, on avait vu que l'arbitre s'était trompé, mais dans ce sport, on ne revient pas, même quand il y a une erreur d'arbitrage. Vous avez été sorti des tatamis par une Italienne, notamment, je crois, qui s'est excusée ensuite derrière. Là, pour le coup, c'était une vraie injustice. Vous étiez à Tokyo, dans vos jeux, et sur une erreur d'arbitrage, on vous sort. Comment vous surmontez ça après tant d'heures et d'heures d'entraînement pour aller plus loin dans la compétition, évidemment?
Après, souvent, c'est des perceptions. Alors, l'arbitre, il dit, voilà, le judo, il est tellement atypique dans les chutes de quand on tombe, c'est des perceptions. Donc, moi, j'avais ma lecture de perception, eux, ils ont leur lecture. Mais en réalité, nous, les athlètes, justement, il y a une image qui est très, très forte, d'ailleurs, que ma concurrente, en fait, qui est une amie, qui m'a posté, en fait, qui a posté, et au départ, je devais arrêter. Et c'est elle qui m'a, finalement, lorsqu'elle a posté ça, cette italienne, elle m'a, waouh, elle m'a mis un message en disant, Asma, t'es une guerrière, tu ne t'arrêteras pas là. Quelque chose comme ça. C'était un des plus beaux de mes... Enfin, voilà, on a fait un combat qui était très noble, qui était très fort, qui était très long. Et en fait, elle m'a mis un message puissant. Et quand je l'ai vu, ça m'a... Voilà, entre nous, voilà, c'est... on se bagarre sur le tapis, mais il y a des vraies valeurs. Donc, l'adversaire peut aussi nous aider à nous révéler. Et c'est vrai que son message m'avait apaisée. Comme si elle avait reconnu, en fait, ce statut... Et finalement, je pense que c'est grâce à ce message, je me suis dit, allez, je vais me relancer un petit peu.
Je m'appelle Slimane et j'ai 15 ans, je vis chez mes vieux à la Courneuve. J'ai mon CAP délinquant, je suis pas un nul, j'ai fait mes preuves. Dans la bande, c'est moi qui ai le plus grand, sur le bras j'ai tatoué une couleuvre. Je suis pas encore allé en tôle, paraît que c'est à cause de mon âge. Paraît d'ailleurs que c'est pas Byzance, que t'es un peu comme dans une cage. Parce que ici tu crois que c'est drôle, tu crois que la rue c'est les vacances. J'ai rien à gagner, rien à perdre, même pas la vie. J'aime que la mort dans cette vie de merde. J'aime ce qui est cassé, j'aime ce qui est détruit. J'aime surtout tout ce qui vous fait peur, la douleur et la nuit. J'ai mis une annonce dans Libé pour me trouver une gonzesse sympa qui bosserait pour payer ma bouffe. Vu que moi le boulot, pour que j'y touche, il me faudrait deux fois plus de doigts. Comme quoi, tu vois, c'est pas gagné. Ce que je voudrais, c'est être au chaume du, palper du blé sans rien glander. Dit comme ça, je serais à la sécu. Je pourrais gratos me faire remplacer toutes les ratiches que j'ai perdues dans des bastons qu'on mal tourné. J'ai rien à gagner, rien à perdre, même pas la vie. De la mort dans cette vie de merde. J'aime ce qui est cassé, détruit. J'aime surtout tout ce qui vous fait peur, la douleur et la nuit. Pas de thune pour me payer de l'herbe, alors je me défonce avec ce que je peux. De triclos, la colle à rustine, c'est vrai que des fois ça fout la gerbe. Mais pour le prix, c'est ce qu'on fait de mieux, et puis ça nettoie les narines. Le soir, on rôde sur les parkings, on cherche une BM pas trop ruinée. On emprunte pour une heure ou deux, on largue la caisse à la porte dauphine. On va au pute juste pour mater, pour s'en souvenir un soir dans nos pieux. J'ai rien à gagner, rien à perdre, même pas la vie. J'aime que la mort dans cette vie de merde. J'aime ce qui est cassé, j'aime ce qui est détruit. J'aime surtout tout ce qui vous fait peur, la douleur et la nuit. Il y a un autre truc qui me branche aussi, c'est la musique avec des potes. On a fait un groupe de hard rock. On répète le soir dans une cave, sur des amplis un peu pourris, sur du matos un peu chourave. Même trouver un vieux débile qui voulait nous faire un disque. Ça a foiré parce que ce minable voulait pas qu'on chante en kabyle. On y a mis la tête contre une brique, que même la brique elle a eu mal. J'ai rien à gagner, rien à perdre, même pas la vie. J'aime que la mort dans cette vie de merde. J'aime ce qui est cassé, détruit. J'aime surtout tout ce qui vous fait peur, la douleur et la nuit. Je me dis qu'à 3000 bornes de ma cité, il y a un pays que je connaîtrai sûrement jamais. Que peut-être c'est mieux, peut-être c'est tant pis. Que là-bas aussi je serai étranger, que là-bas non plus je serai personne. Alors pour me sentir appartenir à un peuple, à une patrie, je porte autour de mon cou, sur mon cuir, le kéfier noir et blanc et gris. Je me suis inventé les frangins, des amis qui crèvent aussi. J'ai rien à gagner, rien à perdre, même pas la vie. J'aime que la mort dans cette vie de merde. J'aime ce qui est cassé, j'aime ce qui est détruit. J'aime surtout tout ce qui vous fait peur, la douleur et la nuit.
RCFM, Sabiens.
Nous avons la chance dans notre magazine d'accueillir Asma Niang pour la dernière partie de cette émission. Invité exceptionnel au parcours de vie, au parcours sportif tout à fait atypique. Asma Niang, vous avez parlé d'une mission presque exclusivement tournée vers les jeunes. Et aujourd'hui, votre reconversion vous amène à écrire des livres, les rencontrer, coacher également, pour transmettre cette notion de force mentale, de dépassement de soi.
Oui, voilà. Et puis aussi, je suis formatrice pour des étudiants en études supérieures, voilà, des masters, des BTS. Et ça, c'est quelque chose que j'aime énormément faire. Mes classes, c'est un peu comme le cercle du poète disparu. Je les fais un peu secouer, les faire un peu révéler leurs réflexions, leur, un peu sortir de leur zone de confort. Donc, j'aime énormément ces cours. Maintenant, on a de la chance qu'il y ait des écoles privées qui font ça, en fait, pour des étudiants, en fait, avant leurs examens. Leur mettre beaucoup de cours de coaching mental, tout ce qui est univers des neurosciences, tout ça. Donc, je suis très, très heureuse de pouvoir partager ça avec des étudiants, justement, pour au-delà de leur diplôme, qu'ils soient, voilà, qu'ils aient de la réflexion, à se poser des questions, et puis faire le tour sur soi, en fait. Et voilà, le focus sur leur premier projet. Et le premier projet, il va au-delà de leur diplôme, c'est eux-mêmes. Parce que si eux, c'est leur premier projet, bah, tous les autres projets, ils vont réussir. Et c'est ce message puissant que j'essaye de leur faire passer, du moins.
Avec de la formation, donc du coaching, des cours, de la conférence, toujours de l'entraînement parallèlement, parce que évidemment, le rêve continue et avec des sélections qui auront lieu au mois de juin pour le judo, pour les Jeux Olympiques de Paris, vous seriez alors, si vous arrivez à vous qualifier, la doyenne des judokates lors de ces Jeux-là, ce qui est aussi une belle médaille, quoi, se dire que aussi tard dans son parcours de vie, on arrive encore évidemment à être une compétitrice qui révèle encore votre force, Asma. Et un livre en préparation, on ne peut pas donner le titre, on le dit aux auditeurs, parce qu'évidemment il y a une réserve, il va sortir bientôt. Quels pourraient être les contenus que vous offririez à vos lecteurs dans ce prochain livre ?
Oui, alors voilà, c'est un livre qui me tient vraiment beaucoup à cœur. Je suis dessus depuis un moment. Et souvent, bon, les athlètes mettent juste une biographie en racontant ces récits. Moi, je voulais faire un peu différent. J'avais envie que mon histoire serve à vraiment quelque chose, tout ce que j'ai vécu, le retour d'expérience. Donc, il va s'articuler avec 12 chapitres. Et chaque chapitre, en fait, c'est une thématique où je donne des outils. Alors, une histoire, une storytelling, quelque chose qui m'est arrivé. Et j'éveille un peu, c'est raconté d'une façon très, très simple pour que tout le monde puisse comprendre. Et il va y avoir des outils de travail, des exercices à faire. Et puis, j'aime pousser les jeunes à lire, parce qu'on a laissé un peu tomber les livres, je pense. Aujourd'hui, il faudrait se remettre à lire, et lire, ça fait rêver, tout simplement. Donc, des livres à lire, je donne des contenus, je donne aussi des films à regarder, que ça soit fiction ou des biopics. Et puis, chaque chapitre, voilà, il y en aura 12. Je peux vous en dire un, voilà, je peux spoiler, ça c'est pas de problème. J'en ai un, par exemple, sur l'acceptation. Je vais en avoir un sur l'audace, les prises de risque, et toujours autour d'expérience et avec des histoires et puis du contenu derrière. Et puis la vulnérabilité, hein, c'est ce mot qui c'est un mot-clé pour moi, parce que je pense que c'est la plus belle force d'un être humain, c'est de montrer sa vulnérabilité. Donc voilà, j'écris des histoires sur ma vulnérabilité, j'offre quelque chose, voilà, je me mets à nu complètement dans ce livre, j'offre quelque chose au lecteur. Et puis, bah voilà, des contenus, comment on peut faire face à la vulnérabilité, comment on peut l'exposer tout en se protégeant. Et puis des outils, des livres à lire et des choses à regarder sur ce thème-là. Donc voilà, ce livre, il fait aussi partie d'une médaille pour moi olympique, parce que c'est le partage, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Et j'espère vraiment qu'il pourra aider certains, comme j'aurais pu lire. Voilà, moi, je me suis vue petite jeune à 15 ans, si je devais tenir ce livre dans mes mains, qu'est-ce que j'aurais voulu, voilà. Et donc, j'ai fait exactement la même chose. Que c'était difficile pour moi à l'époque de trouver des livres vraiment où je pouvais vraiment comprendre facilement et avoir des outils. Voilà, c'est dans ce sens que j'ai écrit ce bouquin.
Un contenu particulièrement adapté, on l'aura saisi pour les jeunes gens, pour ne pas les détourner de la lecture et leur offrir pléthore de supports accessibles et revenir systématiquement à vos propres joies et à vos propres peines, en tous les cas à vos propres expériences à partager. Donc dans un livre qui sort d'ici un petit mois, c'est ça, Asma Diong?
Oui, alors la semaine prochaine, je l'annonce. J'annonce le titre, j'annonce tout. Donc voilà, j'ai un peu stressé. C'est un peu drôle quand on sort le premier livre. On est toujours un peu stressé. Donc. Et puis, il va sortir dans tous les, voilà, toutes les plateformes, toutes les librairies, le 30 mai.
Ok, la date est notée dans notre agenda. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui, Asma Diong, dans Sabians. Et bonne chance pour la suite.
En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation et pour ce partage. Merci beaucoup.
Merci Asma, à bientôt.
À bientôt, au revoir.
Faisons le plein de connaissances dans Sabiens sur RCFM. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Open your eyes. Look up to the skies and see. I'm just a poor boy. I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go. Little high, little low. Anyway the wind blows, doesn't really matter.
Mamma mia, let me go. Beelzebub has has the devil put aside for me, for me, for me.
Sapienza, chaque semaine sur RCFM.
Nous rejoignons le président de la Ligue Corse des échecs, Aca Villesarn, avec nous depuis Agen, où vient de se terminer une compétition, championnat de France jeune, à laquelle tous les clubs de Lille participent depuis fort longtemps maintenant, Aca.
Bonjour, bonjour à tous, bonjour Isabelle. Oui, ça fait plusieurs années que nous participons au championnat de France, et je dois dire que la Ligue Corse des échecs est assez forte parmi les jeunes.
Assez bien représenté, même si au départ, dans la stratégie, on avait envie de faire des échecs un sport populaire et de masse dans son développement, au niveau des scolaires notamment, Aca.
Alors oui, effectivement, notre philosophie, c'est les échecs, l'accès pour tous à ce sport échec. Donc l'idée, c'est d'avoir un maximum de joueurs, et c'est quasi automatique. Si vous avez une base très large, eh bien forcément, votre pyramide sera haute, et c'est ce qui se passe ici à Agen pour nous.
Avec Aca, parfois des vraies réussites. En Corse, on sait qu'on est devenu une terre d'échecs, et ça, c'est quand même intéressant de le souligner. On pense aux jeunes, et moins jeunes aujourd'hui, mais qui s'est distingué très très jeune, Maurizi notamment, qui a crevé complètement les plafonds de la discipline.
Ah oui, là, c'est le niveau mondial, puisqu'il est actuellement champion du monde junior, c'est-à-dire en moins de 20 ans, alors qu'il n'a que 16 ans. Il a été formé et il symbolise vraiment notre stratégie, je dirais, puisqu'il a appris à jouer dans une école à Bastia, à l'école Charpak. Voilà, ensuite, tout jeune, au CP, je crois. Ensuite, il a poussé les portes du club et petit à petit, gravi les échelons, devenu plusieurs fois champion de France, champion d'Europe, maître international et maintenant grand maître et champion du monde.
À quoi servent les échecs dans la vie au quotidien de ces jeunes gens, au-delà du sport et du plaisir évidemment éprouvé à le pratiquer ?
Alors, je pense que les échecs vous apprennent à réfléchir avant d'agir. En tout cas, si vous voulez, nous, notre philosophie, c'est vrai que nous venons de parler de Marc-André et d'autres champions, mais nous, l'idée, c'est vraiment que les enfants grandissent avec le sport échec, avec les échecs, avec les valeurs sportives d'abord, que véhiculent les échecs et tous les autres sports, le respect de soi, le respect des autres, voilà, le bon état d'esprit. Mais en plus, les échecs, je pense vraiment, c'est une matière qui vous apprend à réfléchir avant d'agir. Et je crois qu'on a besoin de ça, en tout cas. Nous essayons de contribuer à une formation, en quelque sorte, des citoyens de demain, vous voyez. Aux échecs, si vous jouez une position, eh bien, vous avez un problème à résoudre. Donc, vous devez réfléchir avant de jouer. Et quand l'adversaire joue un coup, eh bien, c'est un autre problème qui se présente à vous. Voilà, donc, vous avez une multitude de problèmes comme ça. Et donc, vous devez réfléchir avant d'agir.
Ça, c'est très intéressant. Et Aca, précisément, avec votre expérience de terrain près des échiquiers, près de ces jeunes, on pense parfois à des formateurs dans d'autres sports comme le foot, le rugby ou autres, qui disent qu'ils ont vu des jeunes se transformer en les canalisant, par exemple, ou en mobilisant une énergie particulière, voilà, dans un sport qu'ils venaient de pratiquer. Vous-même, en termes de retour d'expérience, vous avez vu des jeunes littéralement évoluer positivement sous vos yeux parce qu'ils s'étaient mis dans cette discipline?
Oui, complètement. D'abord, ce qui est un peu spécial avec les échecs, si vous voulez, c'est que bon, on a une idée reçue qui est qu'aux échecs, il faut avoir des prédispositions, c'est-à-dire avoir une bonne mémoire, avoir calculé très vite ou plein de choses comme ça. Et maintenant, avec 30 ans d'expérience, je pense que non. Je pense que les échecs, si vous voulez, mettent en exergue vos propres qualités, d'abord. Voilà. Souvent, on lit les échecs aux mathématiques, par exemple. Effectivement, c'est une matière où il faut être assez logique, mais vous pouvez avoir une logique différente d'une logique mathématique et être fort aux échecs quand même. Par exemple, si vous prenez un enfant, eh bien, il peut avoir beaucoup d'énergie, courir partout, et puis arriver à se poser 4 heures, par exemple, pour jouer, vous voyez. Mais ce serait un attaquant, simplement. Voilà, donc les échecs vont l'aider à canaliser, et les échecs sont vraiment faits pour tout le monde.
Quand on revient à la compétition que vous venez de traverser avec la Ligue en emmenant un certain nombre de jeunes représentants insulaires à Agen, à Cavillers-Arnes, il y a aussi sur ce terrain-là tout le coaching mental et la préparation et le débrief qui accompagnent ces moments de compétitivité intense.
Oui, tout à fait. Les échecs sont un sport, si vous voulez, assez violent, en ce sens où... Contrairement à d'autres sports, la partie déjà dure longtemps, elle dure 4 heures, mais vous perdez d'un seul coup.
Je sais que vous le comparez souvent à un coup reçu comme sur un ring.
Oui, tout à fait, mais qui vous mettrait KO.
C'est ça.
Vous voyez ? C'est-à-dire qu'il y a une espèce de bras de fer entre deux joueurs. Et soudainement, il y a un coup qui tombe et vous pouvez perdre et vous perdez sur un seul coup. Et en ce sens, le sport échec est assez violent. Et donc, il faut gérer la défaite. Voilà, donc il y a une espèce de débriefing où on essaye d'expliquer la partie. Donc voilà, et les enfants, on gère comme ça. On gère la défaite, mais on apprend aussi à gérer la victoire. Parce que c'est sur une semaine, quand vous gagnez une partie, il faut déjà penser à la suivante. Voilà.
Qu'est-ce que vous diriez, Aka, à des auditeurs, par exemple, qui nous écouteraient et qui auraient droit à la parole et qui vous diraient « mais les échecs, ce n'est pas un sport. Pourquoi est-ce que ça a été récemment classé dans cette catégorie-là » Là, vous venez de nous expliquer qu'il y avait des vrais parallèles avec la boxe et l'uppercut.
Il y en a d'autres,
Il y en a d'autres, voilà. Lesquels seraient-ils, justement? Même physiquement, on peut être formé par une partie et justement endurer des choses?
Alors, les échecs, si vous voulez être un fort joueur d'échecs, vous devez avoir une bonne condition physique. Voilà. Donc nous conseillons à nos enfants qui viennent au club d'échecs d'allier les échecs avec un autre sport un peu plus physique. Ça peut être du foot, ça peut être de l'athlétisme ou du judo, par exemple. Parce que vous devez avoir une bonne condition physique. En ce sens, voilà, les parties sont assez difficiles. Donc vous ne pouvez pas être frais mentalement et psychologiquement si physiquement vous n'êtes pas fort. Voilà, donc les échecs sont quand même un sport physique et fatigant. Si vous jouez 4 heures une partie, je vous assure qu'à la fin, vous êtes fatigué. Ça peut être un peu comme le sport automobile, vous savez. Voilà, mais à haut niveau, c'est vraiment un sport. Voilà, c'est ça qui fait aussi la richesse des échecs. Les échecs peuvent être vus. J'ai une anecdote, d'ailleurs, il y avait à l'époque, il y avait un ministre du sport qui demandait à un grand maître d'échecs si les échecs étaient un jeu, un sport ou un art. Voilà. Il lui a répondu, monsieur le ministre, lorsque vous jouez, c'est un jeu. Lorsque je joue, moi, grand maître, c'est un sport. Et quand le champion du monde joue, c'est un art. Voilà, ça résume vraiment ce que peuvent être les échecs.
À Cavillers-Arnes, c'était très agréable de passer ces quelques minutes en votre compagnie. Vous êtes sur le retour des championnats de France d'Agen pour les jeunes. Quels sont les autres projets de la Ligue et les autres compétitions également que nous allons suivre sur notre territoire à la fin de ce printemps et cet été?
Là arrive nos tournois de masse. C'est vraiment notre vitrine. Les tournois où nous faisons jouer
les scolaires.
Beaucoup d'enfants. Voilà, tous les scolaires. Là, bientôt, à Ghisonaccia, il y aura 800 scolaires qui vont jouer. Ensuite, à Ajaccio, il y a 600 scolaires qui vont jouer. Et puis, à Bastia, le grand tournoi avec 2500 scolaires qui vont jouer sur la place Saint-Nicolas. Voilà. Donc, c'est vraiment notre vitrine. Et c'est aussi notre ADN, je dirais, ce championnat de masse. Voilà, d'utiliser les échecs comme outil socio-éducatif et sportif pour essayer de former les enfants à être des citoyens de demain.
Et Dieu sait qu'on en a besoin, notamment dans notre île. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Aka.
Merci à vous.
Est-ce que vous êtes un bon joueur d'échecs?
Jeune, j'étais pas mauvais. Alors vraiment, je jouais contre ma sœur et je la battais à chaque fois, mais ça l'intéressait elle pas du tout. Donc vous voyez, j'ai des petites références. Mais je suis plus échec que judo quand même, si je devais comparer les deux sports dont on a parlé dans cette émission. Vous êtes très échec, vous?
Alors, pas du tout. J'aimerais être très échec.
Non, mais vous avez connu beaucoup d'échecs.
Ah oui, oui ça dans ce sens-là. Évidemment. Non, mais j'ai une lenteur d'esprit qui ne me permet pas d'être au niveau de ces enfants que je trouve insupportables, tant ils sont bons techniquement et arrivent à retourner des situations. Non, ça m'énerve.
Et votre ceinture au judo?
La couleur? Ah non, la couleur. En revanche, j'ai été une très bonne judokate.
Ceinture quoi?
Alors, je me suis arrêtée à la bleue, mais j'ai été longtemps championne de Corse. Bon, on était deux dans ma catégorie, mais bien sûr.
Et vous l'aviez caché. C'est pas vrai.
Vous ignorez des tas de choses sur
moi. J'ai l'impression. À commencer par les ceintures.
En tout cas, moi, je sais que vous n'êtes pas très handball.
Parce que sinon, j'aurais dit handball. Ouais, c'est ça.
Je vous souhaite de passer un excellent lundi, à la semaine prochaine.
Peut-être du coup.
Il a un petit rictus, oui, je le sens vexé.